m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace de débat citoyen sur Radio Capi, dialogue national inclusif, vérité et réconciliation. Comment articuler les différentes démarches pour une paix durable en RDC? C'est le thème de votre magazine aujourd'hui et nous recevons pour en parler Tchèque Amine Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Nos numéros de téléphone pour participer à cette émission, chers auditeurs, le 086 34 12 871, 086 34 12 871 et le 081 32 34 883. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook, Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Patrick Kiasongwa. Le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangou. Nancy Ntambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Au micro, Jocelyne Moussa Opondé.
Des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Parle aux auditeurs poursuit sa série d'émissions autour de l'appel au dialogue national inclusif lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre-temps, on se rappelle qu'à la date du 13 février 2026, le président du Conseil interreligieux congolais, l'archevêque Dodo Kamba, avait exprimé sa volonté de baliser la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il avait par ailleurs entrepris des consultations avec des acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place d'une commission vérité et réconciliation avec pour objectif de recueillir leurs avis sur les mécanismes des réconciliations susceptibles de ramener une paix durable en République démocratique du Congo. Comment concilier l'appel du chef de l'État avec l'initiative du Conseil interreligieux congolais? Quels sont les résultats de ces consultations? Une commission vérité et réconciliation doit-elle précéder un dialogue national ou peut-elle s'inscrire dans ce processus? Et surtout, quelles pistes pour mettre fin au cycle des violences et parvenir à une paix durable en RDC? Nous abordons ces sujets avec Tchèque Amine Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Nous l'attendons dans ses studios. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais entre-temps, chers auditeurs, notre standard est ouvert. Nous pouvons accueillir vos questions au 086 34 12 871 ou votre numéro habituel 081 32 34 883. Je rappelle le premier numéro parce que vous devez vous habituer déjà à ces numéros qui restera l'unique numéro de l'émission, le 086 34 12 871, 086 34 12 871 et bien sûr le 081 32 34 883. Nous avons déjà en ligne Éminent Mwanda qui nous appelle de Bukavu. On va l'écouter. Bonjour Éminent Mwanda. Si la réalisation peut harmoniser en tout cas le son qui m'arrive en double en retour, ça me perturbe un peu et ça me permet pas de bien communiquer avec les auditeurs. Éminent Mwanda, est-ce que vous êtes en ligne? Bonjour.
Je suis actuellement à Kalemie.
Ok, on doit définitivement corriger ça avec la réalisation. Merci Emina Mwanda de nous rejoindre dans cette émission. Alors, quelle est votre participation à notre thème d'aujourd'hui?
Bon, je vous salue d'abord, je salue l'équipe qui vous accompagne ainsi que tous les auditeurs de Radio Cap. Sachant que le dialogue inclusif actuellement est très important, après que le président de la République ait donné son accord pour sa tenue, mais je sais très bien que le parti prenante dans cette étape-ci devrait quand même se dédouaner de certaines choses. Parlant de dialogue inclusif, je l'ai dit et je continue à le dire que quand on parle de l'inclusivité, on ne peut pas exclure aucune partie, quel que soit ce qu'il a fait. Les gens, personne n'est parfait dans ce monde. Et quand la maison brûle, on peut même l'éteindre avec de l'eau sale. Et ce qu'on cherche actuellement, c'est la paix d'une manière définitive. Ce que le politicien congolais veut encore faire après l'annonce du président de la République, c'est vouloir dire une chose et son contraire à la fois. Parce que les gens qui se trouvent actuellement à l'est de Madame Jocelyne, si vous pouvez même leur demander ce qu'ils désirent de plus, c'est la paix. Parce que la difficulté que les habitants de l'est traversent actuellement est inestimable. Même, il y a des démarches imposées, tout ce qui est compliqué pour la vie, ce sont ces gens de l'Est qui sont en train de payer des pourcassés. Alors nous devons d'abord voir les Congo qui est notre dénominateur commun. Nous devons voir la souffrance de tout un peuple qui semble être abandonné à leur triste sort de l'Est ou d'ailleurs, et c'est retrouver autour d'une table pour nous parler d'en face. Parce que si chacun veut rester dans son cas, je pense que la guerre de l'Est sera loin d'être terminée. Parce que aucune chose n'est éternelle, mais les gens qui sont à l'Est actuellement, vous voyez, il y a en tout cas concours de difficultés. Actuellement, il y a Ebola ainsi de suite. Je pense que Ebola doit encore s'intensifier dans cette région-là suite à une carence de couloirs humanitaires. Alors, la guerre est la mère de toute misère. Je paraphrase aussi Madame Bintou Keïta, l'ancienne représentante générale de l'ONU en RDC, qui avait dit que la guerre est la mère de toute la misère au monde. Alors, je félicite et j'encourage le parti prenante au conflit de se réunir autour d'une table, parce que chacun a déjà fait ce qu'il devrait faire en RDC. Et même, je pense qu'à un certain moment, l'ancien réalisateur de cette émission,
Emina Mwanda, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la création d'une commission vérité-réconciliation en RDC?
La création de cette commission-là, madame, Et la meilleure des choses, parce que quand on crée d'abord cette commission-là, cette commission devait s'appuyer sur les résolutions du dialogue. Les cahiers de charges qui normalement devraient être déposés devraient d'abord, parce que la réconciliation même doit passer par le dialogue. On ne peut pas créer cette commission sans avoir fini à dialoguer. Et maintenant, on va se réconcilier autour d'une table après que le dialogue soit tenu. C'est un peu ça. Parce que si on disait actuellement qu'on va commencer à parler de la création de cette commission-là avant le dialogue, ça risque d'aller en besogne. C'est une façon de danser avant même la musique. C'est ça. Parce que le problème de la RDC, madame, n'est pas grand. Mais si chacun faisait ce qu'il devait faire là où il est, on n'aurait plus de problèmes à RDC. Mais on fait ce qu'on ne pouvait pas faire partout où chacun se trouve. Ce qui est illégal, les gens les légalisent. Et là, toutes choses battent. C'est CMP, ça. Et donc, la création de cette commission-là, pour ne pas monopoliser la parole, devrait être effective une fois que les dialogues soient tenus. Parce que actuellement, nous devons d'abord viser que les dialogues soient tenus à n'importe quel prix pour mettre fin à cette crise ici. Parce que à part les dialogues, je ne vois aucune autre voie qui peut mettre fin à ce. Parce qu'on a déjà fait des sanctions, on a fait tout ce qu'on devrait faire pour peut-être faire pression à tel ou tel autre camp, mais cela n'a pas suffi. Mais c'est le dialogue qui reste la seule cartouche qui peut mettre fin au conflit à l'Est, madame.
Merci beaucoup, éminent Mwanda. Dialogue national et inclusif, vérité, réconciliation, comment articuler les différentes démarches pour une paix durable en RDC? C'est le thème de votre émission aujourd'hui et nous recevons, je l'ai annoncé au début de cette émission, pour en parler, Tchèque Amine Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Professeur, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour madame, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici.
Alors professeur, avant de parler de l'appel actuel au dialogue national inclusif, revenons sur la démarche du Conseil interreligieux congolais. Pourquoi le CIC a-t-il estimé nécessaire d'engager des consultations autour de la vérité et de la réconciliation?
Alors, c'est une démarche qui est motivée par le fait que la résolution des problèmes de la République démocratique du Congo ne doit pas être superficielle. Mmh. La résolution des problèmes doivent toucher les causes profondes, n'est-ce pas, qui continuent d'alimenter depuis plusieurs décennies les cycles de guerre et les cycles de conflits dans notre pays. Le Conseil interreligieux congolais a constaté, malheureusement, que en 2003, la République démocratique du Congo avait raté l'occasion, justement, d'arriver à résoudre les problèmes qui minent notre pays, notamment les problèmes de sécurité, à travers la commission Vérité et Réconciliation qui était mise en place en ce moment-là. Fort malheureusement, cette commission n'avait pas réussi à faire son travail du fait qu'il y avait beaucoup de pesanteurs qui avaient entravé, n'est-ce pas, la réalisation de son travail. Et donc, nous pensons que cette fois-ci, étant donné que le contexte se répète, il faut que nous mettons en place des mécanismes qui vont véritablement permettre la résolution du problème pour que demain, on ne revienne pas pour reparler encore une fois des cycles de violence. Mmh. Et donc, pour nous, nous pensons que c'est nécessaire que la commission Vérité et Réconciliation soit mise en œuvre immédiatement avant que le dialogue politique ne puisse commencer. Mmh. Mais il faut nuancer les choses. Mmh. Nous ne disons pas que la commission Vérité et Réconciliation doit commencer à présent, terminer son travail avant le dialogue. Mmh. Nous disons qu'il doit être mis en place avant le début du dialogue et qu'il commence son travail. Il travaillera avant, pendant et après le dialogue.
Et l'archevêque Dodo Kamba parlait d'un dialogue inclusif, sincère et utile. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce qui ferait qu'un dialogue soit réellement sincère et utile?
Alors, sur la question de la sincérité, nous avons observé, comme tout le peuple de la République démocratique du Congo, qu'actuellement, entre les acteurs politiques, il y a beaucoup de méfiance. Pour la plupart, ils se regardent en chien de faïence pour des raisons multiples. Mmh. Chacun trouve la raison de dire qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas des circonstances de confiance, il n'y a pas moyen de faire confiance à l'autre. Et donc, la situation se prête telle que on ne peut pas considérer qu'actuellement, les choses se prêtent pour que les gens puissent parler sincèrement de ce qui les divise. Mmh. Pendant les consultations qu'a menées le Conseil interreligieux congolais, nous avons notamment parlé avec beaucoup d'acteurs politiques de premier rang, n'est-ce pas, qui nous ont donné leurs desiderata, notamment. Et parmi les desiderata qu'ils ont soulevés, je ne suis pas habilité à donner un jugement de valeur sur les accusations d'une part ou des déclarations qui ont été portées d'autre part. Mais le fait est que nombreux ont relevé un certain nombre de points qui fâchaient la stabilité et qui fâchaient la crédibilité ou en tout cas la confiance, qui sapait la confiance entre les acteurs. Et donc, il est nécessaire justement, d'après le Conseil interreligieux congolais, pour que nous arrivions à mener un dialogue qui soit véritablement sincère, il faut créer un cadre qui permette à ce que les gens puissent parler à cœur ouvert, n'est-ce pas? Il faut un minimum de cadre, un cadre qui soit plus propices, qui permettent à ce que les gens puissent s'exprimer, qui puissent s'exprimer librement. Notamment, par exemple, la décrispation politique. Il faut envisager une décrispation politique véritable qui mette les acteurs en confiance et qui permette à ce que, demain, lorsque le dialogue sera convoqué, que les gens puissent véritablement parler en patriote.
Mais ces consultations ont-elles aujourd'hui permis de dégager de points de divergence? Vous en parliez d'une manière globale. Est-ce que vous avez pu dégager justement ces points de convergence aussi, hein, et les différents acteurs?
Oui, si nous restons sur le thème principal de nos consultations, qui était notamment de faire un plaidoyer sur la nécessité de la création de la commission vérité et réconciliation avant la tenue du dialogue, et donc qui ferait son travail avant, pendant et après. Sur cette question-là, nous avons relevé un consensus majeur auprès de tous les acteurs. Aucun acteur politique de ceux que nous avons consultés ou les acteurs de la société civile que nous avons consultés, aussi bien de la jeunesse, n'a relevé un problème à cela. Ils ont tous été d'accord sur le fait que ça reste pertinent que nous puissions aboutir à un processus qui va vers la vérité et la réconciliation pour que nous puissions consolider l'unité nationale. Voyez-vous, cette valeur de la cohésion nationale, c'est une valeur importante pour notre pays. Nous savons que ça fait plus de 30 ans que le pays est en crise et cette crise ne se résout pas parce que quelque part il y a une richesse culturelle qui est aussi un talent d'Achille pour la République démocratique du Congo. Plus de 450 ethnies dans notre pays, il faut trouver le moyen de vivre ensemble, il faut trouver le moyen de vivre en paix. Et donc la commission vérité réconciliation, c'est un cadre, n'est-ce pas, qui devrait nous permettre justement d'arriver à cela. Il pourrait anticiper les potentielles crises à venir si seulement il était mis dans les conditions de travail véritablement.
Et donc il faut chercher, est-ce que vous devez chercher la vérité d'abord sur les violences passées avant de parler de réconciliation? C'est quoi vraiment la démarche?
Le principe de la commission vérité-réconciliation ou des mécanismes vérité-réconciliation, c'est cela justement. Ouais. C'est d'établir la vérité sur les faits passés, actuels, pour anticiper les problèmes à venir. Mais il n'y a pas seulement la question de la recherche de la vérité ou de la vérité pour la paix, mais il y a aussi le processus de réparation. Parce qu'il y a eu des victimes au passage, il faut réparer auprès de ces victimes-là, il faut réconcilier les populations parce que par moment, les crises concernent des ethnies ou ça concerne des communautés spécifiques. Il faut donc mettre en place des moyens qui permettent à ce que les communautés se réconcilient, les populations se réconcilient, les bourreaux d'hier puissent s'amender sur leurs fautes, qu'ils puissent réparer là où cela est possible. C'est un mécanisme de justice transitionnelle. Donc ici, on n'évoque pas dans l'immédiat la justice pénale. C'est d'abord une justice alternative qui permette à ce que la résolution des conflits puisse être faite et que durablement, on puisse construire la paix.
Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, 086 34 12 871, et le 081 32 34 883. Nous avons en ligne Félix Moulumba, Victor Nzuzi et Maître Patrick Audiard. Nous commençons par Félix Moulumba qui nous appelle depuis Kananga. Bonjour Félix Moulumba.
Bonjour madame, je suis Moussa Mponde. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution à cette émission?
À mon avis, l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi l'initiative du Conseil interreligieux congolais ne devrait surtout pas être considéré comme deux démarches concurrentes, mais comme deux approches, n'est-ce pas, qui peuvent se compléter. L'une relevant de la responsabilité politique de l'État et aussi l'autre de la médiation morale et sociale et des confessions religieuses. Cependant, j'aimerais savoir si la mise en place d'une commission vérité et réconciliation avant le dialogue national ne risque pas de retarder les processus politiques ou au contraire de créer un climat de confiance favorable à un dialogue plus sincère et plus productif. Ma question au professeur Tshek Amine Katembo est la suivante. Quelles leçons les CIC tirent-ils des expériences africaines de commission vérité et réconciliation, notamment en Afrique du Sud ou ailleurs, et quels éléments seraient adaptés au contexte spécifique de la République démocratique du Congo? Enfin, au-delà des consultations déjà menées, et ainsi de suite, est-ce qu'il existe des recommandations concrètes sur la justice pour les victimes, la lutte contre l'impunité, la réintégration des communautés affectées par les conflits et aussi, il faut noter, la participation de jeunes et des femmes dans le processus de réconciliation nationale? Voilà, je vous dis merci.
Merci, Kylie.
Cher Kamine, votre réaction par rapport à ça?
Je suis très heureux d'entendre les questions de Monsieur Freddy Moulumba, c'est bien ça?
Oui, Félix Moulumba.
Félix Moulumba, des questions très pertinentes, et ça rencontre, à mon sens, toutes les dispositions que le CIC a prises en demandant à ce que la commission vérité-réconciliation soit mise en place avant la tenue effective du dialogue. Pour sa première préoccupation quant à savoir cette proposition, elle est une deuxième proposition concomitante à celle du dialogue tel que convoqué par le président de la République. J'aimerais lui dire tout de suite que la proposition du CIC est complémentaire justement à la convocation du dialogue qu'a fait le président de la République. Pour des éléments de contexte, j'aimerais rappeler que lorsque les initiatives ont commencé à germer au sein de la des organisations de la société civile, notamment avec le tandem Senko-ECC, lorsqu'ils ont fait la proposition du pacte social, le Conseil interreligieux est parmi les rares organisations de la société civile qui s'est donné le souci d'approcher, n'est-ce pas, ce tandem pour s'approprier de leur initiative, pour ne pas avoir à proposer des initiatives bis. Nous nous sommes appropriés de cette initiative et avons fait des recommandations, avons formulé des propositions d'amendement et d'amélioration de cette initiative pour que nous puissions converger tous ensemble vers une initiative commune nationale. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, le Conseil interreligieux congolais avait notamment déjà fait des recommandations en parlant du dialogue en tant que tel et quel était le format selon que le CIC l'entendait. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous sommes, plutôt vers une convergence plutôt qu'une divergence d'initiative. Donc la commission vérité réconciliation n'est qu'une branche de ce qui devrait être fait dans le cadre du dialogue. La différence ici, c'est seulement que nous ne postposons pas la mise en place de cette commission. Nous souhaitons qu'elle soit mise en place dès à présent et qu'elle travaille avant, pendant et après.
Nous rejoignons à Mbanzangungu Victor Nzuzi qui attend pour intervenir à cette émission. Bonjour Victor Nzuzi. Victor,
bonjour à toutes. Alors, je voulais dire, la commission vérité et réconciliation, c'est une bonne chose, mais en réalité, même quand l'invité dit qu'elle peut travailler, elle doit être installée maintenant et travailler pendant et après les dialogues, mais je vous assure, la commission, c'est une très belle chose, mais le problème qu'il y a, c'est que si cette commission doit commencer le travail maintenant, et à quel niveau est-ce que on peut, quel est le moment, le temps auquel il faudra faire intervenir les dialogues? Après, dans cette commission vérité et réconciliation, je sais que ils sont des amis de la Bible, nous sommes tous Bible, Coran. Mais quand il parle de la repentance, tout à l'heure il a parlé de réparation. Mais qui doit réparer? C'est l'État qui doit réparer à la place de ces criminels. Excusez-moi, quand on aura déjà réconcilié, on ne parlera peut-être plus de criminels. Mais qui doit réparer? L'État ou ces individus-là qui ont commis le crime? Et aussi, il y a un problème qui va se poser. Il y a des graves crimes contre l'humanité. Alors, quand on parle de la repentance, je ne sais pas. Ces crimes contre l'humanité en droit, qui sont imprescriptibles, on fait quoi? On pardonne? Mais Jésus avait fait un coup de balai dans l'église, hein, quand il avait trouvé le désordre. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? Et je termine en disant, sincèrement, si le dialogue doit se faire où? Parce que nous n'avons pas l'habitude de respecter nos engagements. Nous, Congolais, les gouvernements, on sait hein, ce qui se passe. On n'a pas l'habitude de respecter les engagements. Vous croyez que si Kabila vient ici, Nanga vient ici, ils seront pas arrêtés? Et vous croyez qu'ils vont venir? Et la dernière question, est-ce que le conseil de l'Église, leur conseil, et ça fonctionne? Et comment est-ce qu'ils travaillent avec le gouvernement rebelle qui est à Goma? Et quels sont les avis qu'on leur donne par rapport aux propositions qu'ils sont en train de faire? Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup, Victor Nzuzi. On rejoint à Kisangani, maître Patrick Odia. Bonjour.
Bonjour aux chers et à tous les auditeurs de la Radio Capi. Messieurs de m'associer à ce niveau du débat. D'emblée, c'est une question, c'est une thématique cruciale qui demande une analyse multidimensionnelle également. Et je souligne également les interventions des uns et des autres, mais aussi les réponses qu'a qu'a fourni à le professeur à certaines, je vais dire, préoccupations également. Mais moi, je voudrais peut-être m'atteler sur l'aspect de la stabilité, si vous voulez, de la pérennité ou pérennisation de la paix en RDC également. J'ai bien entendu le professeur parler de la commission justice, vérité, réconciliation, qui est une bonne chose. Mais peut-être, je voudrais juste lui faire observer que c'est pas la première fois que cette commission sera mise en place. Nous avons connu avant 1997, le dialogue intercongolais 2001-2002, tous ces processus de dialogue, il y a toujours une forme de commission justice et réconciliation. Mais pourquoi après la mise en place de cette commission, il y a toujours des troubles, il y a toujours des désordres, il y a toujours des tueries par-ci, par-ça et tout ça. Il y a toujours une haine, il n'y a pas toujours un véritable suivi, je vais dire également, une justice transitionnelle véritable pouvant condamner les auteurs des crimes. Parce qu'il faut dissocier les auteurs des crimes, mais aussi certaines personnes qui seraient mobilisées juste pour besoin de la cause ou la cause du besoin également. Donc, moi je pense qu'à ce niveau, il faut essayer de faire une analyse brève. Je voudrais rappeler au professeur que selon l'analyse de la consolidation de la paix de l'ONU, les ressources naturelles, les fonciers, la sécurité, mais aussi les droits humains et les tensions communautaires figurent parmi les principaux facteurs qui traitent, je vais dire, à traiter simultanément également. Et pour ce faire, il faut essayer que cette commission qui sera mise en place devra-t-elle s'atteler sur quoi? Est-ce que sur les conflits régionaux? Est-ce que sur les conflits nationaux? Est-ce que sur les conflits, je vais dire, interethniques ou locaux? Je vais dire, comme là, les conflits comme ça. Parce que si vous prenez, vous mettez en place une commission à caractère national, mais n'oubliez pas que les conflits ont une portée régionale, voire internationale. Non, il faudrait à un niveau catégoriser la commission ou la dimension des conflits. Au niveau local, nous avons peut-être les Benatel et les Benatel encore, qui sait. Ça, c'est peut-être au niveau local. Mais au niveau national, il faut parler de telles provinces et d'autres provinces. Et au niveau régional, il faut parler du Rwanda, du Burundi et les autres pays. Et à ce niveau-là, on pourra peut-être parler des propositions qui sont également sincères et véritables. C'est comme ça on va identifier les problèmes. Moi, je pense qu'aussi, au-delà de tout ce que j'ai évoqué, tout ce que j'ai dit ici, il faut essayer de réformer réellement le secteur de la sécurité. C'est bien beau, le phare d'essai qui doivent mener à bord la mission de rétablissement de la paix et de l'ordre public, ils sont formés et tout ça, mais leur formation ne suffit pas. Il faudrait accentuer, il faudrait leur prise en charge. Voilà pourquoi je parlais de la multidimensionnalité de ces caractères ou de ces conflits également. Non, il y a des questions économiques qui doivent être réglées, il y a des commissions ou des questions sécuritaires qui doivent également être résolues. Si vous vous attelez tout simplement, comme je l'ai vu, le ministre de la Défense, délégué à la Défense, Eliezer Ntambo, qui fait un travail de qualité, mais la paix ne consiste pas tout simplement à récupérer les armes, les Mobondo et les autres, non. Ça va au-delà de la pérennité même du programme de DDR. Dites-moi aujourd'hui à ce stade, quelle est la commission qui s'en charge de mobilisation et tout ce qui va avec? Où en sommes-nous? Est-ce que peut-on faire un bilan au-delà de tout ce qu'on nous produit comme consommation, la rémission, je vais dire, les rebelles remettent ou certaines personnes remettent les armes et tout ça? Est-ce que c'est ça la véritable résolution de cette question? C'est bien beau de mettre à ou de parler de la commission justice réconciliation. Mais moi, je voudrais tout simplement pourchuter qu'il faudrait catégoriser les conflits national, régional, local. Et à chaque niveau des conflits, il faut y associer des acteurs clés. Et au-delà de tout, même s'il faut parler des dialogues, même s'il faut parler du pardon et tout ce qui va avec, mais les auteurs des crimes doivent être punis, doivent être poursuivis comme il se doit, et ce, au regard de la justice transitionnelle. Voilà un peu de manière intrinsèque ce que je voulais aborder par rapport à cette thématique qu'a soulevé le professeur tout à l'heure, tout en lui laissant la primaire de nous révéler d'encore d'autres choses également.
Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, Cheikh Amin Katembo.
Je suis particulièrement content de voir que notre peuple, le peuple congolais, tient beaucoup à la question de la résolution de conflits et il est suffisamment alerte sur l'ensemble de ces questions. Je n'en suis que très réjoui parce que je me rends compte finalement que de plus en plus que le Conseil interreligieux congolais a vu juste. sur cette question de la résolution de conflits en proposant notamment la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Et j'aimerais revenir rapidement sur certaines questions qui se recoupent entre les différents intervenants de tout à l'heure, notamment Monsieur Victor Ndouzi, par exemple, qui a posé la question sur le temps qu'il faudrait pour faire intervenir le dialogue. Est-ce que maintenant, on met d'abord en place la commission Vérité et Réconciliation et le dialogue plus tard, etc. J'avais répondu à cette question. J'avais dit que cela peut être fait concomitamment. La commission peut être mise en place. Elle commence son travail et le dialogue est convoqué d'autre part pour avancer, n'est-ce pas, dans le sens de la résolution des problèmes politiques et concomitamment, on résout également d'autres problèmes sécuritaires, communautaires, etc. à travers la commission Vérité et Réconciliation. J'aimerais aussi revenir sur la question de l'expérience des expériences africaines, sur la question de la commission Vérité et Réconciliation. La proposition justement du Conseil interreligieux est partie de cette analyse-là. Nous avons analysé ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ailleurs, et nous avons analysé ce qui s'est passé dans notre propre pays en 2003. Je l'avais dit à l'entame de notre émission qu'en 2003, nous avons raté l'occasion, n'est-ce pas, de résoudre durablement les questions d'insécurité dans notre pays à travers la Commission Vérité et Réconciliation, parce que simplement, nous avons préféré faire comme d'habitude, mettre la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation après les discussions politiques. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait certains bourreaux, ceux qui étaient notamment impliqués dans des crimes graves, qui se sont retrouvés dans le partage des pouvoirs après les discussions politiques. Parce que disons-nous les choses comme elles sont. Dialogue politique égale partage de pouvoir. Vous pouvez dire ce que, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque les bourreaux d'hier se retrouvent aux commandes de la République, ça devient difficile que ces gens puissent collaborer avec la commission Vérité et Réconciliation. Et donc, la plupart se sont retirés, n'est-ce pas? Ils se sont soustraits de l'obligation de la vérité. Mais non seulement ça, ils ont empêché le fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation, en utilisant notamment leur influence au niveau international pour empêcher que la commission ne puisse pas lever les fonds qui lui permettraient de travailler. Et en interne, au niveau du pays, ils ont bloqué le financement de cette commission, à telle enseigne que la commission n'avait jamais véritablement travaillé.
Mais quelle garantie on a que cette fois-ci sera la bonne?
Voilà, la meilleure façon de faire, c'est d'empêcher, d'éviter à ce qu'on en arrive à un stade où les acteurs concernés d'aujourd'hui puissent avoir les moyens d'empêcher le fonctionnement de cette commission. D'où mettre en place la commission avant que les discussions politiques ne puissent véritablement débuter serait une solution à notre sens. Voilà.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche de vérité et de réconciliation puisse devenir un jour simplement un espace de confrontation politique au lieu de favoriser l'apaisement?
C'est toujours un risque, évidemment. C'est toujours un risque possible. Mais nous pensons au sein du CIC que la volonté du peuple et la volonté des acteurs politiques véritablement sincères qui veulent engager le pays dans la paix, dans la voie de la paix, irait plutôt dans le sens de chercher vraiment à résoudre les problèmes. Mais évidemment, nous n'allons pas, nous pensons pas que la République va se laisser enliser dans une situation telle qu'elle va se retrouver face à des problèmes insolubles. Donc l'objectif ici, c'est d'abord de commencer par mettre en place un cadre qui crée suffisamment de confiance pour permettre à ce que les gens puissent véritablement aller vers la résolution des problèmes. Et donc vérité, réconciliation, justice transitionnelle, ce sont des mécanismes qui ont justement été pensés pour compenser cette méfiance qui pourrait venir du fait que certaines personnes se reconnaissent coupables et qui se disent pourquoi j'irai répondre alors que ce que j'avais fait, j'avais les bonnes raisons de le faire selon moi. Et donc la justice transitionnelle aide justement à résoudre ce genre de situation. Mais si vous le permettez, madame, je voulais revenir aussi sur la question des crimes imprescriptibles. C'est très important parce que l'auditeur Victor Ndouzi a posé la question là-dessus. Évidemment que l'objectif n'est pas de la justice transitionnelle n'est pas de faire pardonner les crimes imprescriptibles. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de créer un climat de confiance qui permette à ce que nous puissions débattre sereinement sur l'ensemble des problèmes qui touchent à notre pays. Et évidemment que ce cadre-là même, que ça soit la commission Vérité et Réconciliation ou le dialogue, il y a des actes qui doivent être pris au plus haut niveau de la République, notamment le chef de l'État qui a annoncé sa volonté de vouloir convoquer un dialogue. C'est au président de la République de prendre un certain nombre d'actes. À ce stade, le Conseil interreligieux congolais ne fait qu'une proposition. Elle ne peut pas, n'est-ce pas, donner une configuration de ce qui va arriver. Nous attendons le temps que le président de la République prenne les actes officiels qui convoqueront soit le dialogue, soit aussi la mise en place de la commission vérité et réconciliation. Et à ce moment-là, lorsque les termes de référence seront définis de manière officielle, tout sera décliné pour que, véritablement, nous puissions rencontrer les préoccupations qui sont soulevées.
Autre chose à ajouter avant de prendre une autre série de questions des auditeurs?
Oui, peut-être rebondir sur la dernière question qui était posée par M. Patrick Audia, qui a demandé à quel niveau est-ce que le problème serait résolu à travers la Commission Vérité et Réconciliation, est-ce au niveau national, est-ce au niveau régional. Ouais. Cette problématique, nous l'avons rencontrée également avec la proposition du tandem Sanko-SCC, qui voulait à ce que l'initiative Pacte Social puisse être une initiative congolaise, mais qui soit résolue au niveau régional. Nous avons pensé, après plusieurs analyses, nous avons jugé que il serait pas de bonne loi que les problèmes internes de la République démocratique du Congo soient résolus au niveau régional, forcément. Donc il y a des choses que nous pouvons résoudre au niveau national, les problèmes qui sont purement congolais doivent être résolus au niveau congolais. Mmh. Parce que comme je disais tantôt, au tout début de notre émission, nous avons une richesse culturelle telle que cette richesse culturelle même devient un talon d'Achille. Parfois, il y a des influences étrangères qui viennent pour créer des situations de crise dans notre pays. Pendant plusieurs mois, le président de la République notamment, il a parlé du fait de l'implication du Rwanda, n'est-ce pas, dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Beaucoup d'acteurs ont douté. Évidemment, tout le monde était un peu dubitatif pour se demander mais comment est-ce que cela pourrait être possible. Aujourd'hui, les rapports des Nations Unies ont donné...
Mais qu'est-ce qu'on fait justement de ce genre de questions? Parce que vous parlez de problèmes congolais qui doivent être résolus au niveau national. Mm-hmm. Que fait-on justement de l'implication des autres pays, notamment les pays voisins?
Oui, nous avons un gouvernement qui est censé faire ce travail-là. Mm. En fait, ce qu'il faudrait éviter, et ça c'est dans la façon de faire du Conseil interreligieux congolais, c'est d'éviter de se substituer aux institutions de la République. Mm. Nous avons un gouvernement, nous avons un système démocratique dans notre pays. Il faut que nous acceptions que la démocratie puisse véritablement fonctionner. Si nous avons des crises en interne dans le pays, nous les réglons à travers des mécanismes de résolution de crises en interne. Et s'il y a des problèmes qui traversent nos frontières, faisons confiance au gouvernement. Faisons-lui pression s'il le faut, mais laissons au gouvernement d'assumer ses responsabilités.
Mmh. Nous allons prendre nos auditeurs qui attendent pour intervenir dans cette émission. Kangalo Bola nous appelle de Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, Kangalo Bola.
Ok, je vais toujours éviter les commentaires de mes confrères qui m'ont précédé. Concernant notre sujet, oui, c'est bien, mais moi, je vois ceci. Les religieux de notre pays veulent commander encore le gouvernement. Puisque autant aussi de Dieu, lorsque Moïse dirigeait les enfants d'Israël, en tout cas, il n'y avait pas autre chose qui entravait le gouvernement qui était sur place. D'autres pays aussi au monde, il y a des gouvernements et les religieux sont dans ces pays. Ce qui se passe dans notre pays, c'est au contraire de ce que nous vivons ailleurs. Le gouvernement, le président a initié ces dialogues inter-inclusifs, s'il vous plaît, pour éviter la répétition de ce que nous subissons chaque jour. Puisque en associant ceux qui ont participé à ce qui détruisent le pays, raison pour laquelle cette scène se répète chaque jour. Hein, nous ne pouvons pas se laisser comme si nous n'avons pas vraiment d'intelligence dans ce monde. Hein? Même Jésus-Christ a dit que, lorsque ses disciples lui avaient dit que non, ici je suis occupé, je vais aller regarder ceci, cela, il avait dit que laisser les morts enterrer leurs morts. Ceux qui s'attachent à la rébellion, à l'agression et à la destruction du pays, vraiment n'ont pas droit encore à participer ou bien à obtenir... l'amnistie dans notre pays. Nous fatiguons, s'il vous plaît. Nous fatiguons. Laissez le gouvernement faire ce qu'il doit faire. Les religieux, nous tous, nous sommes les religieux. Hein? Nous ne pouvons pas accepter seulement chaque jour d'assister au malheur de nos frères, à la destruction de notre pays. Ça, en tout cas, c'est assez, c'est assez. Au Rwanda aussi, il y a les religieux. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu que les religieux de Rwanda entravent le programme de Kagame?
Merci.
Et puis, eux aussi, ils ont aussi des choses à dire au gouvernement rwandais. Mais ils voient que non, le gouvernement fait ce qui leur convient. Et nous, les régions, nous sommes ici.
Merci,
en tout cas, s'il vous plaît,
on suit le programme du gouvernement. Votre préoccupation. Merci. Et l'invité va y répondre. Quand Kolongo est à Kananga. Bonjour.
Bonjour, madame Jocelyne Pondé. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capil. Mais sinon, je vous rappelle bien que je suis au province de Gassa et Antaléno à Bandundu.
Ok, vous pouvez prendre la parole.
Oui, merci beaucoup de m'associer à ce débat, madame Jocelyne Pondé. Je pense avec la situation de dialogue ici chez nous au Congo, ça secoue presque toutes les radios de la République. Alors, pour ne pas aller de loin, j'avais juste des questions à poser à notre invité du jour. Est-ce que ce dialogue que nous sommes en train d'attendre, ça sera le dernier dialogue ou bien il y aura notre dialogue? La deuxième question à notre invité, si aujourd'hui on part au dialogue et il n'y a pas la suite, quelle sera la réaction du président de la République? Je pense que c'est un peu ça, mes deux préoccupations, madame Jocelyne Pondé.
Est-ce que vous pouvez reprendre votre deuxième question?
Oui, j'aimerais savoir est-ce que si aujourd'hui on part au dialogue et qu'il n'y a pas la suite à ce dialogue, parce que je pense qu'on a fait beaucoup de dialogues au pays, le président a fait des va-et-vient, mais sans succès. Mais si aujourd'hui on part au dialogue et il n'y a pas la suite, quelle sera la réaction du président de la...
Mais c'est une question adressée au président de la République que vous posez au professeur qui est mal placé pour y répondre. On va prendre une dernière question, l'avant-dernière question de cette série. Franck de Vienne, bonjour.
Ouais, bonjour madame Jocelyne, bonjour à vous tous au studio et à l'invité.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'ai seulement une difficulté parce que depuis quelques jours, on ne sait plus vous capter. Puis pour la présente thématique, je n'ai pas suivi dès le début. Mais seulement si je dois me permettre de mettre un point de vue par rapport à tout ce qui se passe, c'est en forme de regret. Personnellement, quand je suis l'actualité de notre pays à distance, j'ai souvent de la peine pour arriver à comprendre certaines choses. Je me demande moi personnellement si les citoyens congolais, les intellectuels congolais, nous avons le sens de l'histoire, de ce que nous avons vécu et de ce que nous pourrons vivre encore demain. Et quand on voit un peu comment les uns et les autres s'agitent, c'est comme s'il y en a qui se battent seulement pour avoir accès à une certaine portion du gâteau. Et ceux qui sont là continuent toujours encore à commettre encore les mêmes erreurs qu'on semblait dénoncer il y a quelques années ou quelques décennies. Et comme toujours, je ne cesse de le dire, tant que l'homme congolais lui-même n'arriverait pas à se remettre en question pour comprendre que l'avenir de ce pays dépend et dépendrait de son bon sens, on pourrait organiser des dialogues et des dialogues peut-être que ça n'ira pas. Donc, il faut d'abord que l'homme congolais, qu'il soit intellectuel, hautement qualifié ou pas, et surtout les intellectuels, que nous arrivions d'abord à comprendre que ces pays nous appartiennent et nous devons vraiment travailler pour ces vrais élans du développement. Mais tant qu'on passerait parfois devant les micros de la presse pour défendre ce qu'on ne peut pas ou pour concevoir ce qui ne peut pas, tant qu'on serait dans des laboratoires des bureaux politiques, pour ne concevoir que des projets politiques pour se maintenir au pouvoir au détriment de la majorité, et tant que la majorité parfois des citoyens resterait aussi dans des états de naïveté pour ne pas arriver à reconnaître ses vraies prérogatives et ses vrais droits, c'est vraiment difficile. C'est là où j'ai personnellement de la peine pour comprendre certaines choses qui se passent chez nous. On les dénonce, mais on ne veut pas corriger. Et parfois, ceux qui dénonçaient hier, quand ils arrivent au pouvoir, ils recommettent les mêmes erreurs. Ceux qui se battent aujourd'hui pour avoir accès à ces gâteaux, quand ils seront là, ils vont encore recommettre les mêmes erreurs. C'est comme ça que chez moi, j'ai dit, les problèmes congolais, c'est d'abord l'homme congolais. Donc, c'est l'homme congolais qui doit d'abord arriver à se remétamorphoser convenablement pour se remettre à sa vraie place et ça pourrait partir. Je crois m'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Franck de Vienne, Tchekamine Katembo. On va répondre à ses auditeurs.
Merci beaucoup. Au fait, j'aimerais remercier Monsieur Franck de Vienne. Je pense que son propos est plus un conseil qu'autre chose, adressé aux hommes politiques de la République qui, selon lui, n'ont pas toujours le sens patriotique qu'il faut. Et donc, je ne ferai pas de commentaires.
Pardon, Tchek Amin, on a oublié un dernier auditeur. C'est Marie-Paul Awa, avant de répondre à aux autres prénoms aussi. Les préoccupations de Marie-Paul qui nous attendait à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, madame. Ah, mais bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. Madame, à ce niveau des débats, oui, à ce niveau des débats, c'est qu'il faut dire que toutes les recommandations qui pilient bien évidemment à la convocation des dialogues nationaux constituent, de mon point de vue, les préalables bien évidemment de ces mécanismes de résolution pacifique des problèmes ou des crises que nous connaissons dans notre pays. Alors, au-delà de tout ce que les uns les autres demandent, madame, nous devons nous mettre à l'esprit que le dialogue ou la convocation des dialogues, c'est parmi des choses qui sont très très fastidieuses, c'est parmi des choses dues dans les résolutions des différends, parce que lorsque on va au dialogue et que la base ou les bases n'ont pas été posées et les décors n'a pas été planté, justement nous allons passer le temps, nous allons revenir dans les cases du départ. Mais la crainte que j'ai dans tout ce que les gens demandent, c'est que, comme vient de rappeler Franck de Vienne, il y a certaines recommandations qui démontrent de vive voix qu'il s'agit là des recommandations pour avoir des positionnements. Et des gens avec ces genres de recommandations, justement, si les gens vont avec ces genres d'agenda, nous allons revivre les mêmes situations que nous avons connues dans ces pays ici, où on va dans les dialogues, on va dans des consuliambiles, on ne trouve pas de solution. Et de mon point de vue, je suis en train de nous interpeller, de mettre à l'esprit quand même le patriotisme. Si, madame, vous voyez la manière dont nous évoluons dans ces pays, les pays n'avancent pas, les pays sont en train de reculer. Et nous-mêmes, Congolais, nous ne nous rendons pas compte. Tout le monde cherche à devenir ministre, mais il est impossible que nous tous là, nous devenions des gouvernants. Mais si nous avons le nationalisme et nous avons le patriotisme avec ses valeurs, chacun à son niveau va se retrouver. Mais et ceux qui seront des gouvernants ne vont pas se taper la croix des lions, et c'est ce qui est d'ailleurs la clé de voûte de tous les problèmes que nous connaissons. Et si et seulement si on a ces valeurs, madame, je pense que nous allons avancer, nous n'allons pas passer l'état, et que le dialogue va produire ses effets escomptés, et nous allons résoudre tous ces petits problèmes que nous connaissons de gauche à droite, et des problèmes qui sont liés tout simplement au fait que les gens n'ont pas ces valeurs-là patriotiques, et du coup, nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer, les pays en train de faire laisser place. Voilà en quelques mots ce qu'il faut dire.
Merci beaucoup Marie-Paul Awa, qui va aussi dans le même sens que Absolument. Franck de Vienne. Absolument. Alors, votre réaction, Tchek Amin.
Déjà, je vais commencer par les deux derniers, donc Monsieur Franck de Vienne et Monsieur Marie-Paul Awa. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont donné comme recommandation. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que le CIC, dans sa position, dans sa prise de position par rapport au dialogue et dans sa recommandation qu'elle a faite pour la mise en place d'un mécanisme de vérité et réconciliation, c'est justement pour aller dans ce sens-là, parce que nos recommandations disent que nous ne voulons pas d'un dialogue qui soit un dialogue bonificateur, un dialogue qui va servir de blanchisserie pour certains acteurs politiques, qui va juste leur donner une nouvelle vie politique. Ce que nous voulons, c'est un dialogue qui soit véritablement orienté vers la résolution des crises et le renforcement des mécanismes de réparation pour les populations civiles qui ont été victimes depuis longtemps. Mmh. Et donc vraiment, c'est là où il y a le focus du Conseil interreligieux congolais. Alors, j'aimerais également répondre à la question de M. Kangalubola. qui a fait une affirmation en disant que les religieux voulaient contrôler le gouvernement.
Ou bon, c'est substitué au gouvernement ou aux institutions du pays.
Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cette affirmation, mais ce que j'aimerais peut-être faire observer, c'est que les confessions religieuses dans notre pays sont gérées dans un cadre spécifique. Ce sont des organisations de la société civile, et en tant que composantes, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, d'agir comme conseillers de la République. Ils peuvent conseiller les institutions, ils peuvent apporter des propositions, participer à la vie de l'État. Et donc, dans ces limites-là, aussi bien le conseil religieux que les autres confessions religieuses organisées dans des organisations essayent, chacun en ce qui le concerne, de faire ce travail-là. Maintenant, au-delà de ça, je ne saurais pas entrer plus loin dans son affirmation. J'aimerais également rencontrer la question de M. Kang Kolongo qui a demandé si ce dialogue serait le dernier dialogue. Il faudrait avoir une boule de cristal pour savoir ça. Mais en réalité, s'il faut parler sérieusement, dans une société humaine, il faut envisager qu'il y aura toujours besoin de se parler. Parce que la question du dialogue, il faut peut-être se détacher de le regarder sous le prisme forcément politique. Il faut peut-être essayer de le regarder sous un prisme social. Et ce que nous avons recommandé en termes de mécanisme de vérité-réconciliation, nous avons envisagé que ça soit également un mécanisme pérenne. Pérenne parce que je l'ai disais tantôt, ça c'est la troisième fois que je vais le répéter, la richesse culturelle de notre pays, 450 ethnies, pour que nous puissions maintenir les conditions de vie apaisées, nous devons nous assurer d'avoir un cadre qui permette d'anticiper des potentielles crises. Mmh. Et donc, un cadre national qui permet à ceux que nous puissions éviter de répéter les erreurs du passé, qui puisse lancer des alertes si jamais des situations qui préparent le cadre d'un conflit à venir commencent à se mettre en place, on anticipe pour résoudre ce genre de problème, au niveau des communautés, parler avec les communautés, ou bien c'est au niveau des acteurs politiques. Et donc, ce cadre-là du mécanisme vérité-réconciliation peut être mis en place de manière pérenne pour s'assurer que les conditions de crise ne puissent plus jamais prospérer et que ça puisse déboucher à des conflits meurtriers. Sa deuxième préoccupation, c'était de savoir si le dialogue était sans suite. Je crois que vous avez réagi à ça, parce que c'est une question adressée plutôt au chef de l'État. Je suis mal placé pour apporter de réponse à cette question. Et donc, il y a également la question sur laquelle j'aimerais revenir, qui était posée par M. Victor Ndouzi. Il avait demandé où faire le dialogue. Sur cette question-là, le CIC n'a pas de réponse. Mm-hmm. Nous attendons, comme nous disions, que les actes soient pris au plus haut niveau de la République, et c'est à partir de là que tout cela sera défini. Le Conseil interreligieux congolais restera force de proposition, parce que nous l'avons toujours été, depuis toujours. Nous sommes force de proposition, et donc lorsque les actes seront pris, s'il y a lieu de formuler des propositions, soit qui vont dans le sens de créer un cadre beaucoup plus large de consensus, nous n'hésiterons pas, nous formulerons des propositions et ce sera aux autorités de décider le moment venu. La dernière question que j'avais ratée, j'aimerais y revenir, de M. Patrick Odia, il voulait savoir pourquoi après la mise en place des commissions vérité-réconciliation, la justice transitionnelle n'est pas vraiment mise en œuvre. Oui, l'expérience de 2003, j'en ai parlé. En fait, il y a le fait que les gens étaient jugés partis. Ceux-là même qui étaient auteurs parfois des crimes s'étaient retrouvés autorités, dirigeants, etc. Et donc, ils se sont simplement soustraits de l'obligation de la vérité. C'est pourquoi, cette fois-ci, il faudrait faire les choses autrement. Il n'y a aucun intérêt à répéter la même chose pour espérer un résultat différent. Et puis, il est écrit nulle part, sur aucun manuel, qu'il est obligatoire que lorsque un pays veut s'engager dans la voie de la réparation et de la paix, il faut que obligatoirement la commission vérité-réconciliation soit postposée par rapport au dialogue politique. Mmh. Oui, il y a certaines exigences, notamment l'exigence de s'assurer que les résolutions vont être acceptées par tous, de garantir que les influences politiques ne viennent pas interférer avec la mise en place de la commission vérité-réconciliation. Mais tout ça, il y a une manière de l'encadrer et la proposition du conseil interreligieux et justement ficelé dans ce sens-là, pour encadrer cette mise en place postposée au dialogue politique.
Ça sera donc votre conclusion, Cheikh Amin Katembo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé massivement à cette émission. On se retrouve jeudi, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Entre-temps, restez fidèles à la fréquence de la paix.